Ce quatrième numéro du balado Jason Pédagogie Numérique marque la journée internationale de la femme qui a lieu le 8 mars. Pour l'occasion, je reçois Nadia Nafi, professeure adjointe au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage à la faculté des sciences de l'éducation de l'université Laval. Elle est titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique Banque Nationale. Nadia Nafi, que je mets à l'honneur aujourd'hui, est une femme de front, une chercheuse qui a décidé de prendre le sujet des technologies numériques en éducation par les cornes, et ce, bien avant la vague de la pandémie. Elle insistait déjà sur la transformation numérique et l'importance d'accompagner les enseignants et les étudiants dans l'appropriation des technologies numériques et notamment le développement de l'agentivité numérique pour un meilleur usage des réseaux sociaux. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Vraiment merci pour d'avoir accepté en fait cette rencontre. J'ai découvert il y a pas très longtemps tous tes écrits et toute ton activité via les réseaux sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle je me disais mais il y a vraiment quelque chose à faire avec toi, parler de l'impact des réseaux sociaux en enseignement en 100% présentiel, mais on navigue un peu en eau trouble. On sait pas trop, on a envie de se conforter dans l'idée que on va revenir comme avant, mais peut-être que c'est pas comme un comme avant, donc on va en parler aujourd'hui. Petit rituel de ce balado diffusion en pédagogie numérique, c'est de demander généralement aux invités, mais comment ils en sont arrivés à parler de pédagogie numérique et comment, quelles sont les questions ou les sujets qui les animent. Donc je vais te laisser gentiment te présenter.
Super. Donc tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très ravie de discuter avec toi. On a eu une petite rencontre avant et puis on a vu que quand ça commence, le flow est là et puis on peut parler pour des heures. Alors déjà là, c'est vraiment très très motivant de te rencontrer et puis d'échanger avec toi. Donc tout d'abord, moi je suis professeure adjointe à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval en technologie éducative. Et puis aussi, je suis titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique. Banque Nationale. Mais c'est sûr que j'ai pas commencé là. Je viens d'un monde qui est un peu différent. Je viens de l'architecture d'intérieur. Wow. Donc ma formation initiale, c'était vraiment architecture intérieure et puis j'enseignais les arts plastiques dans les écoles. Donc quand je faisais mon bac, j'ai eu l'opportunité d'enseigner dans une école française et puis j'ai commencé à enseigner les arts et puis j'étais piquée par cette passion d'enseigner, puis je me suis dit ok, c'est vraiment là ma passion, je veux vraiment enseigner parce que c'est en échangeant avec les étudiants, et puis j'avais des étudiants vraiment de différents âges et puis de différentes backgrounds concernant les arts et tout, donc tous ces échanges là c'était hyper intéressant pour moi, donc j'étais prise par l'enseignement. Et puis en même temps je travaillais comme graphic designer. Je travaillais avec des clients, j'échangeais, la communication était vraiment au cœur de mon travail, toute l'analyse des besoins de mes clients, à quoi ils s'attendaient et puis comment évoluer pour mieux répondre à leurs besoins. La technologie a commencé à entrer, c'est comme à travers ceci, parce que pour pouvoir créer pour mes clients, j'ai dû apprendre des logiciels, utiliser des logiciels, vraiment expérimenter avec des logiciels, etc. Donc, je trouvais que travailler avec la technologie m'aidait à évoluer, m'aidait à exprimer mes idées. Mais en même temps aussi m'aider à communiquer avec mes clients. J'avais la technologie dans les arts plastiques parce que comme tu sais, dans les arts, on travaille beaucoup avec les technologies aussi, on expérimente, on joue avec tout ceci. Mm-hmm. Et puis aussi comme graphiste. Ça, c'était quand je travaillais dans l'école et puis en graphic design avant que je déménage au Canada. Et oui. Puis en arrivant au Canada, j'ai décidé de poursuivre mes études, je suis tombée sur le plan de cours en technologie éducative à l'Université Concordia. Et puis, c'était vraiment un cours qui s'appelle HPT, donc Human Performance Technology, où on regardait l'humain et puis comment, à travers l'éducation, à travers la formation, mais pas seulement à travers la formation, mais avec toutes les différentes solutions, que ce soit pédagogique ou non pédagogique, on peut aider l'humain à mieux performer dans son environnement. Et puis, c'était un coup de foudre. Et puis, j'étais comme, OK, là, je vais faire ma maîtrise en technologie éducative parce que c'est vraiment là ce qui m'allumait énormément. Donc, j'ai fait ma maîtrise en technologie éducative à l'Université Concordia. Puis, encore une fois, j'étais hyper excitée par le sujet. Puis, j'avais déjà du fait que, comme je vous ai dit, j'ai immigré au Canada. Alors, j'ai quitté toute ma vie au Liban, j'avais besoin d'un moyen pour rester en contact avec eux autres. Et puis, c'était les médias sociaux. Donc, tous les réseaux, toutes les applications, tout ce monde en ligne qui m'a aidé à rester en contact, à garder les liens, à vraiment vivre ce qu'ils vivaient, puis eux autres qui vivaient ce que je vivais à travers ces technologies-là. Donc, d'où le fait que, en voyant l'importance, la valeur de ces plateformes-là, de ces réseaux-là, de ce qui arrivait dessus, j'ai décidé de faire ma recherche de mon projet de maîtrise sur qu'est-ce que les jeunes apprenaient quand ils interagissaient sur les médias sociaux. Parce que, comme on les recherches précédentes, on voit toujours comme un regard, une perception négative des médias sociaux. On voit toujours tout ce qui est mauvais, tout ce qui est dangereux, donc on est hyper critique de ce monde-là, mais on focus pas vraiment sur, OK, on a ce monde, on a ces plateformes. Comment on peut utiliser ces plateformes-là pour évoluer, pour apprendre? Donc, j'ai travaillé avec des jeunes. Et puis j'ai eu vraiment un grand nombre de jeunes qui expliquaient comment ils apprenaient à travers, mais aussi avec les médias sociaux, ils évoluaient. Donc ça, c'était ma recherche de maîtrise. Et puis ça m'a vraiment focusé sur les médias sociaux. Et puis depuis, je travaille. Et puis je peux dire que du fait de mon travail, du fait que là, j'ai vu la valeur, qu'on n'a pas besoin toujours d'être dans un même milieu physique pour qu'on puisse interagir avec l'autre. Et puis comment, à travers les médias sociaux et puis ces réseaux-là, je peux contacter n'importe qui à n'importe quel moment. Et puis il y a plus de limites, il y a plus de barrières entre moi et l'autre, entre moi et toutes les que ça soit les différents experts que j'aimerais rencontrer, que ça soit les différentes personnes avec qui je veux échanger, que ça soit avec même le grand public pour lequel je travaille, puis je veux échanger, puis vraiment partager la recherche que je suis en train de faire. Donc je trouvais ce monde en ligne qui m'ouvrait vraiment beaucoup de portes et puis facilitait cet échange. J'ai décidé de continuer mon travail doctoral aussi en technologie éducative, bien sûr, mais sur ce sujet-là. Et puis, je pensais beaucoup aux immigrants. Oui. Et puis, les immigrants, alors comment les médias sociaux aidaient à l'intégration des immigrants dans leur nouveau monde. Et puis, il y a eu la crise des réfugiés syriens. Oui. Pendant le moment où je travaillais sur mon projet doctoral, et puis je me suis dit, OK, là, j'observais ce qui arrivait, puis il y avait toute l'attaque sur les réseaux sociaux à propos de l'arrivée des réfugiés, etc. Et puis je me suis dit, OK, mes jeunes, durant la maîtrise, j'ai fait la recherche, et puis ils ont montré qu'ils avaient vraiment un pouvoir. Il y avait la gentilité des jeunes sur les médias sociaux, ils pouvaient aider. Alors, dans le cadre, dans le contexte de l'arrivée des réfugiés syriens, comment les jeunes peuvent avoir aussi un rôle, une agentivité pour aider l'intégration de ces réfugiés. Donc, je ne parlais plus des immigrants en général, mais vraiment, je regardais un problème qui était humanitaire. Et puis, je voyais comment les réfugiés, en arrivant, ils étaient traités vraiment comme… Ils étaient considérés comme des terroristes, des violeurs. Donc, j'ai fait ma recherche doctorale sur le rôle de ces jeunes-là pour faciliter ou bien donner une autre image de ces réfugiés en ligne. Donc, pour vraiment venir avoir un autre discours en ligne que le discours des terroristes, mais vraiment montrer comment les réfugiés pourraient avoir un rôle important et pourquoi il faut les aider et puis pourquoi ils sont des humains. Et puis, c'était super intéressant parce que j'ai travaillé avec 42 jeunes de différents pays. Je crois que c'était 11 ou 12 pays, des pays qui accueillaient des réfugiés. Et puis, à travers nos différentes rencontres, parce que j'ai eu vraiment plusieurs rencontres avec ces jeunes-là, c'était une rencontre de discussion en profondeur. Et puis, il y a eu toute cette transformation des jeunes qui, pour eux, ils disaient, moi, je vais aider les réfugiés hors ligne, dans les centres d'accueil, etc. Je trouve pas comment je pourrais les aider en ligne parce que la voix et puis l'agressivité des gens qui sont en ligne, elle est beaucoup plus forte. Alors, comment moi, je vais trouver ma place? Comment je vais aider? Et puis, à travers nos discussions, petit à petit, ils ont réalisé que, en réalité, du fait qu'ils sont pas présents en ligne et puis il n'y a pas leur voix, ils laissent la place à toute cette voix agressive, toute cette voix négative qui existait en ligne. Donc, les personnes qui sont des bystanders, des personnes qui n'arrivent, qui savent pas vraiment sur le sujet, puis qui viennent écouter ce qui est arrivé sur les médias sociaux, ne recevaient que le message négatif.
Le négatif. Donc, forcément, ça influe aussi sur la conscience commune et l'idée, les spéculations et les biais.
Absolument. Par là, les jeunes, donc mes 42 jeunes qui travaillent avec moi, ils ont réalisé que là, être des bystanders, ça aidait cette image négative. Alors, il devait avoir ce rôle-là. Et puis, on a discuté de comment faire d'être en ligne sans rentrer dans des conflits avec ces personnes-là, sans se mettre à risque, sans vraiment, créer plus de clash en ligne, mais vraiment donner cette différente perspective, différents discours, montrer vraiment des données différentes pour que les personnes qui sont neutres puissent venir avoir des décisions qui sont informées. Tout ce travail sur les médias sociaux, pourquoi je te parle de tout ça, c'est que de plus en plus que je travaille avec les jeunes, puis quand je parle jeunes, je parle 18-24 ans.
Oui.
Ils sont présents en ligne, mais d'après mes recherches, ils sont pas conscients, ou bien ils ont peur, ou bien ils ont pas les moyens, ou bien vraiment les stratégies pour pouvoir avoir un rôle important qui va aider notre société.
Donc des stratégies d'appropriation de ces technologies-là pour avoir un impact positif sur la société.
C'est vraiment des stratégies non seulement de comment utiliser les technologies, mais comment communiquer en ligne, comment projeter leur voix, comment faire la discussion, comment introduire des différentes données, puis des différentes perspectives, vraiment interagir avec les personnes et puis rentrer dans ce dialogue-là qui va aider. Donc, cette réflexion, cette analyse, tout ça, on voit dans les écoles et dans les curriculums, on travaille beaucoup sur la citoyenneté numérique. On parle beaucoup de comment se protéger, comment quand on est en ligne, il faut s'assurer de... Tu sais qu'on parle de la cyber-intimidation, on parle de tout ce qui est dangereux, les hackers, etc. Mais on parle pas de comment vraiment développer l'agentivité numérique de ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir un rôle important dans notre société. Mm-hmm. Parce que là, on voit que on peut plus nier le fait qu'on vit en ligne hors ligne. On peut plus dire que moi, je vais nier les médias sociaux, je vais nier cet environnement-là. Je peux vivre ça parce que plein de choses qui arrivent dessus. Et puis, en le niant, on est en train vraiment de perdre beaucoup d'opportunités. Donc, le fait que ça existe, les jeunes sont là, on voit chacun d'entre nous, on ouvre les médias sociaux et puis on reçoit plein de messages. Donc, on y vit, même si on essaie de, il y a un groupe qui l'ignore ou bien ils disent qu'il n'y a pas vraiment de la valeur dans ces réseaux-là ou dans ce monde-là. On les voit aller sur YouTube, on les voit aller sur, bien qu'ils le nient, mais ils sont là. Ces personnes-là sont présentes, sur les médias sociaux. Donc, et puis elles sont en train de recevoir, que ça soit, on parle de la désinformation. Là maintenant, je suis en train de travailler sur les deepfakes. Et puis les deepfakes, c'est un autre danger qui est en train de se propager. Donc les deepfakes, juste pour dire rapidement, ce sont des vidéos de personnes qui n'ont jamais dit ou fait ce qui est en train d'être présenté à travers les vidéos, mais à travers l'intelligence artificielle, on peut créer, je peux faire dire et faire à n'importe quelle personne n'importe quoi que moi je veux. Et puis on arrive à un moment où la technologie est tellement développée que tout le monde, c'est accessible, tout le monde peut le faire. Et puis on peut pas détecter que c'est une vidéo qui est fausse. Donc tout ceci là, c'est en train d'être partagé en ligne. Et puis on a besoin, autre que le gouvernement dans nos cours, etc. On a besoin vraiment des personnes qui sont déjà présentes en ligne, qui ont le courage, et puis qui ont les compétences pour être en ligne, d'aider notre société à ne pas tomber dans les pièges de la désinformation, des deepfakes, de toute la question de la propagande négative contre des certains groupes, parce qu'on a plein de groupes vulnérables et puis ils sont tellement attaqués sur les médias sociaux. Et puis quand on reste comme des bystanders à faire rien, là on est en train de contribuer à l'attaque. Mm-hmm. Donc on a un rôle à jouer sur les médias sociaux, mais il faut préparer nos jeunes pour qu'ils puissent jouer ce rôle-là. Donc, on peut pas juste dire aux jeunes, OK, vous allez jouer un rôle important dans notre société, vous êtes le futur de notre société, mais on les garde hors ligne. Et puis, vous pouvez juste travailler parce qu'il y a de choses qui arrivent en ligne, qui est en train de nuire à notre société. Et puis, on a besoin de leur...
C'est ça. Ouais, mais c'est super intéressant. Mais non, n'arrête pas. Moi, je bois tes paroles.
Je
bois tes
paroles.
Mais oui, mais c'est ça. Moi, je bois tes paroles. Puis j'ai envie de te laisser continuer. Mais en même temps, justement, tu es arrivée toute seule à la question que j'allais te poser. J'allais justement essayer de rebondir sur ce que tu disais pour savoir un peu ce que tu en penses. Parce qu'il y a des cas, hein, justement. Là, tout à l'heure, je disais qu'on revient à un 100% présentiel au cégep, en tout cas dans l'enseignement supérieur. Et il y a cette idée, tu sais, moi j'ai participé à des rencontres où certains enseignants ont parlé de brouilleurs, de wifi, on parlait de d'hyperconnectivité, mais d'interdire comme il y a quelques années les ordinateurs en classe ou les tablettes ou les téléphones. Pour moi, c'est une régression, ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que comment on peut faire quand, en tant qu'enseignant, on est expert d'une matière, d'une discipline, qu'on doit faire en sorte que nos étudiants développent des compétences dans cette discipline, mais en même temps les accompagner à être des adultes en toute conscience des problématiques du 21e siècle. Notamment, dans ces problématiques, ben, l'usage justement du numérique, la possibilité en tant que citoyen de savoir et de connaître en fait les différentes traces de cet aspect numérique et aussi de pouvoir justement, comme tu le dis, pour les réseaux sociaux, de ne pas rester en stand-by, mais de peut-être challenger ce qui est dit, le deepfake dans les réseaux sociaux, etc. Mais quand on a des enseignants qui se disent « Ah, on va arrêter tout ça parce qu'on est content de recommencer comme avant », comment on peut faire ? Comment les préparer, eux, à être prêts à aborder ces questions-là et retourner la situation ?
Écoute, je m'attendais à cette régression-là, tout simplement parce que, comme je t'avais dit, là, je travaille avec les technologies, ça fait longtemps, et la transformation numérique, ça fait un bout de temps que j'en parle. Tout ce qui va, le changement, qui doit être apporté, à comment on enseigne, qu'est-ce qu'on enseigne, etc. Ça fait des années que j'en parle. Et puis, il y a plein de personnes autour de moi qui me disaient, ah, l'intelligence artificielle, c'est loin. La transformation numérique, c'est loin. On va pas y arriver, etc. T'es en train de parler de quelque chose qui est encore loin.
C'est pas loin, c'est là.
Exactement. Avec la COVID, toutes ces personnes-là qui me disaient c'était loin, là, ils en parlent. Elles en parlent. Et puis, je souris parfois, mais la réaction que je recevais d'habitude, c'est que du fait que moi, je travaille avec les technologies, puis je suis à l'aise, ils me disaient, mais tu comprends pas qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend de passer à travers la transition? Et puis, ça m'a fait arrêter, puis ça m'a fait réfléchir vraiment à notre contexte là, et puis aux enseignants, et puis que ça soit, peu importe le niveau des enseignants. Et puis, pour pouvoir adopter et puis adapter les technologies, c'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment, il y a une transition qui doit se faire. Et puis, la personne doit être convaincue, ou presque, de la valeur ajoutée à ces technologies-là. Les enseignants, je sais que d'après mes rencontres avec eux et les discussions, elles sont déjà comme submergées avec tout le travail qu'elles doivent faire ou bien qu'ils doivent faire. Donc, ajouter des tâches, etc., c'est toujours un challenge, un défi pour eux autres. Avec la COVID, on a eu cette transition hyper rapide. Déjà là, il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas à l'aise avec la technologie. C'est venu comme un top-down. Vous devez absolument utiliser la technologie. Vous devez faire quelque chose avec. On doit absolument assurer l'enseignement pour nos étudiants. Donc, on les a mis dans une situation où c'est pas nous, comme le contexte de la COVID a mis ces personnes-là dans une situation où elles devaient absolument survivre cette transition-là. Donc, c'était un choc pour ces personnes-là. Pourquoi elles veulent absolument revenir? Parce qu'elles n'ont pas eu vraiment l'expérience positive de la technologie. Et puis, elles n'ont pas vu vraiment la valeur parce qu'elles étaient toujours dans un mode de survie. Elles voulaient absolument assurer quelque chose pour leurs étudiants. Et puis, elles n'ont pas eu la chance vraiment d'explorer, faire la transition d'une façon vraiment, comment dirais-je, solide. Donc, il y a eu cette transition rapide et puis elles ont expérimenté. Et puis, on a vu dans beaucoup de cas, c'était vraiment un copy-paste de ce qui se passait hors ligne dans les classes. Ils étaient faits en ligne et puis l'expérience était terrible parce qu'on peut pas enseigner en ligne comme on enseigne en classe. C'est impossible, comme tout l'espace, les interactions. Le rôle du prof, de l'enseignant, n'est plus pareil comme dans la classe. Donc, vraiment, en ligne, il y a un rôle qui est différent, une approche différente, un environnement différent. Juste regarder la caméra à la place de regarder les personnes. Donc, l'approche, elle est différente. D'après moi, ça va pas être une expérience positive. Ça va pas vraiment les amener à changer. Ceci dit, comme tu disais avant, c'est hyper dangereux le fait qu'elles retournent, mais parfois elles retournent encore plus traditionnelles. Ça c'est hyper dangereux du fait que, et encore une fois, comme tu disais, là on part dans des, on a, on, on sait pas on peut prévoir un peu le futur, mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Il y a des vraiment différents futurs auxquels on doit préparer nos étudiants parce que le marché de travail a changé avec la COVID. Le travail a changé. Avant même la COVID, on travaillait à distance. Il y avait toute cette globalisation. On travaillait vraiment de différents endroits. On travaillait avec la technologie. Donc, le milieu de travail est en train d'évoluer d'une façon hyper rapide, même avant la COVID. La COVID est venue et puis elle a marqué son poids et puis elle a dit, OK, travailler à la maison, le télétravail, tout est possible. Il n'y a rien qui n'est pas possible. Avant, on devait, même nos conférences, même nos rencontres, etc. Là, on voit que, OK, pourquoi perdre le temps dans notre transport si on peut vraiment bénéficier
exactement,
beaucoup plus.
Exactement.
Si on est en train de se rencontrer en ligne. Donc, et puis même, il y a eu tout ce qui est en rapport avec le balance entre la vie famille et puis le travail. Donc, on est arrivé à vraiment avoir des changements positifs du fait que travailler avec les technologies dans nos milieux de travail. Donc, nos étudiants, ils s'en vont vers ce milieu de travail qui va plus être centralisé dans un espace physique, mais vraiment, il va être espacé. Donc, s'ils n'ont pas les compétences pour pouvoir travailler avec les différentes modalités, on est en train vraiment de leur nuire. On n'est pas en train de les préparer pour ce monde-là. Mmh. Non seulement qu'ils doivent pouvoir travailler avec la technologie, ils doivent communiquer à travers la technologie. Parce que c'est pas parce que moi je peux communiquer en personne avec les autres parce que j'ai besoin. Il y a des personnes qui te disent ah j'ai besoin de voir le body language, j'ai besoin d'être à côté de la personne pour que je puisse vraiment performer. Mais écoutez, là on peut plus dire on peut juste performer quand on est dans un espace physique. On doit pouvoir performer à travers que ça soit
l'écran d'un outil.
Parfois, on va pouvoir juste à travers notre téléphone avec un petit écran. Donc, peu importe. Parfois, il y a plein de personnes qui font des meetings en marchant parce que là, c'est aussi notre nouvelle façon de faire. On marche, on fait notre marche, on fait nos rencontres. Donc, il y a plusieurs façons, plusieurs modalités. Et puis, c'est là où on s'en va. On doit pouvoir communiquer, on doit pouvoir collaborer avec les différentes, tous les différents logiciels, différentes plateformes. Donc, c'est vraiment un milieu de travail qui est très différent de ce qu'on avait avant, qui est en train d'évoluer d'une façon hyper rapide, l'intégration de l'intelligence artificielle, les jobs qui sont en train de changer, collaborer avec l'intelligence artificielle, collaborer avec toutes ces différentes technologies pour une meilleure performance, l'ouverture, la curiosité, le critical thinking, tu sais, comme l'adaptabilité, être capable de s'adapter à ce qui s'en vient, parce qu'encore une fois, on sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Et puis, on peut voir qu'il y a différentes possibilités pour ces différents futurs.
Ouais, c'est ça. Il y a cette expression « apprendre à naviguer en eau trouble » que j'adore parce que ça, pour moi, ça fait partie d'une compétence qui devrait être développée auprès des étudiants, c'est sûr.
Absolument. Donc, du fait qu'on a besoin de préparer, donc notre rôle, notre responsabilité comme enseignant, c'est pas juste enseigner le contenu, parce que on sait aussi, et puis ça c'est avant la COVID, on sait qu'on peut plus juste enseigner le contenu parce que le contenu il existe en ligne, donc tout existe en ligne. Donc c'est vraiment passer au-delà du contenu, au-delà de l'information, du knowledge, des connaissances qu'on en parlait avant. Il y a toujours les connaissances, mais il y a aussi les compétences essentielles du 21e siècle qu'il faut absolument développer avec nos étudiants. Et puis la technologie va nous aider à le faire. On peut plus rester limité. Et puis Quand on parle, moi, je partais dans des commissions scolaires où ils interdisaient le Facebook. J'étais comme, OK, mais en interdisant le Facebook, les étudiants sont en train d'utiliser le Facebook. Cette plateforme-là, ça fait partie de leur vie. Maintenant, les jeunes utilisent moins Facebook.
Ben parce oui. Que
nous, on est vieux, on est sur
on Facebook. On est vieux, c'est la honte. Moi, mon fils me dit, la honte, tu utilises Facebook. Oui.
Parce que, écoute, on passe notre temps avec nos étudiants, on est en train de les développer, les préparer pour le monde qui s'en vient. Et puis, travailler avec les différentes plateformes et ces différents mondes, ça fait partie de nos responsabilités. Moi, pour moi, une personne qui enseigne les maths, par exemple, c'est pas juste enseigner les différents théorèmes, mais enseigner aussi toute la pensée. Mais si moi, j'arrive à un problème et puis j'arrive pas à trouver une solution, comment je peux trouver la solution? En allant en ligne, en allant parler dans des forums, en allant poser la question dans un groupe de X, Y, Z, à aller peut-être vers un expert et puis je trouve un expert qui connaît et puis je vais aller poser la question. Donc, ne plus me limiter à mon bouquin, à la prof, à mes collègues qui sont dans mon cours, mais vraiment avoir le monde
c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à justement ton exemple sur les maths. L'une des expertises que j'ai, c'est d'enseigner le français langue seconde. Puis dans l'acquisition des langues, le gros problème actuellement, tu parlais d'intelligence artificielle, mais on va plus parler de systèmes en fait augmentés qui vont permettre un accompagnement à l'écriture. Aujourd'hui, et c'est vrai pour moi, je suis bilingue, mais ça m'arrive dans mon écriture de faire appel à des logiciels pour m'aider dans mon écriture. Et pour moi, lorsque des profs de langue bannissent ce type de logiciel, pour moi, c'est un gros problème. C'est pas de dire, enseigner la grammaire, mais aujourd'hui, ils utilisent Google Translate. Le problème, c'est pas de dire, on n'utilise pas Google Translate, utilisez le livre de grammaire et les dictionnaires. Parce que dans le compte, qu'est-ce qu'on fait? La question, c'est, on prépare l'étudiant pourquoi? Pour qu'il ait une bonne note et qu'il passe son cours 100, 101, etc. Ou on le prépare pour qu'il puisse utiliser l'outil qui est la langue qu'on enseigne, notamment le français ou l'anglais dans notre contexte, pour qu'il soit prêt dans son travail à écrire des rapports, à communiquer avec ses collègues et à communiquer dans sa vie de tous les jours. Et je pense que ça, c'est aussi une remise en question de la manière dont on enseigne et aussi des disciplines qu'on enseigne. Enseigner la grammaire, je pense aujourd'hui, devrait se faire par le biais des outils qui sont disponibles. Et on ne le fait pas. Ça fait qu'on va avoir des étudiants sur le lieu de travail qui vont de toute façon l'utiliser, on ne va pas se mentir, mais qui vont mal l'utiliser.
Absolument, absolument. Ce que tu es en train de dire est hyper important parce que, comme tu dis là, ça revient à ce que je disais, collaborer avec l'intelligence artificielle. Ici, c'est vraiment collaborer avec les logiciels qui existent. Du fait que, encore une fois, je vois, ok, pour moi, de mon point de vue, c'est notre responsabilité. Puis si on le fait pas, c'est qu'on est en train de manquer vraiment quelque chose qui est hyper important, manquer dans notre responsabilité. C'est vraiment comme si on n'est pas en train vraiment d'assumer notre rôle au complet envers nos étudiants. C'est comme si on est en train vraiment de les mettre dans une situation où ils doivent survivre par eux-mêmes sans les aider à développer les compétences nécessaires pour qu'ils puissent survivre. Donc là, quand on parle d'un dictionnaire, quand on parle d'un livre de grammaire, etc., oui, ok, parfait, on va les utiliser parce qu'il faut développer aussi toute la connaissance de la grammaire. Mais à un moment donné, comme tu dis, on est toujours en train de travailler avec les différents logiciels parce que ce n'est plus à propos de mémoriser. On doit connaître, on doit comprendre les différentes règles, par exemple de grammaire. Mais comment on va les utiliser? Quand on va être dans une situation qui n'a pas été présentée dans notre classe, comment on va pouvoir travailler avec les différents logiciels, arriver et trouver des solutions aux questions qui vont se poser sur le milieu de travail, bien quand on est hors de notre classe. Donc, ce qui était, et puis là, ça nous ramène aussi à la question de l'évaluation. Puis la question d'évaluation qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer? Est-ce que on évalue les connaissances? Donc là maintenant, ok, ils finissent le cours, ils connaissent ce qu'ils doivent connaître, ou bien vraiment le transfert à long terme de tout ce qu'ils sont en train de d'apprendre. Donc pour pouvoir faire ce transfert là, on peut pas se limiter aux examens ou l'évaluation de connaissances, mais vraiment comment ils sont en train d'utiliser ces connaissances là. Donc ces connaissances là, que ça soit à travers les logiciels, que ça soit à travers, et encore, on parle de la grammaire, on parle de différentes disciplines. Le travail est en train d'évoluer, ok? Les attentes sont en train d'évoluer, nos rôles sont en train d'évoluer. Et puis on a besoin de savoir, ok, avec ces évolutions-là, comment on va pouvoir utiliser tous les outils présents, existants, pour qu'on puisse continuer à performer. Mm-hmm. Et puis, même si, ça c'est quelque chose que par exemple j'enseigne dans mes cours en technologie éducative, j'enseigne différents logiciels de production de formation en ligne. Dans mes cours, par exemple, je n'enseigne pas les logiciels, je donne la liste des logiciels et puis j'ai un travail qui s'appelle auto-formation. Et puis mes étudiants doivent aller s'auto-former sur ces logiciels-là. Et puis après, ils créent la formation en ligne. Donc, mais ils travaillent en collaboration. Donc, il y a comme un blog où ils échangent ce qu'ils sont en train d'apprendre, les défis, ils se posent des questions, etc. Mais toute ma classe apprend ensemble à utiliser ces logiciels-là, les ressources qu'ils sont en train de trouver en ligne, etc. Donc, moi, je suis là, je facilite. Et puis ça, c'est important parce que le rôle d'enseignant, c'est vraiment un facilitateur de connaissances. Donc, ils sont en train d'apprendre comment apprendre des logiciels. Ouais. Parce que moi, aujourd'hui, je leur donne Storyline. Mais Storyline, c'est maintenant, il est hot et puis il est vraiment utilisé par les différentes firmes, etc. Mais dans 10 ans, ou bien même avant, dans 5 ans, peut-être qu'il va y avoir un autre logiciel qu'ils vont devoir utiliser. Et puis moi, je vais pas être là pour leur enseigner. Ils doivent savoir comment utiliser, comment apprendre et puis comment aller chercher des ressources pour apprendre. Donc, non seulement aller parler avec les collègues, mais aller voir en ligne, OK, où est-ce que je peux pouvoir trouver des ressources pour apprendre comment utiliser ce logiciel-là? Donc, apprendre à apprendre, c'est hyper important.
Oui.
Et puis, c'est pareil pour nos jeunes qui, aujourd'hui, on les apprend et puis on est limité avec ce que on est en train de leur donner, mais on ne sait pas parce que qu'est-ce qui va venir après. Donc, on doit les préparer pour qu'ils puissent apprendre seuls. Donc, quand on parle du lifelong learning, quand on parle de toute la question d'auto-formation, quand on parle de l'adaptabilité des étudiants, tout ça, OK, je crois que, et je le crois fort, que c'est notre responsabilité de l'assurer, de développer ces compétences-là pour préparer nos étudiants à peu importe ce qui va se venir après, ils sont prêts à faire face à ceci sans avoir besoin de la main de l'enseignante pour les tenir et puis les amener là où ils doivent aller. Ils doivent pouvoir aller sans notre aide. Mm-hmm. Donc, faciliter ces compétences-là d'autonomie, c'est hyper important.
Mais cette prise de conscience-là, parce que je suis objet un peu de l'étude et puis je m'étudie moi-même, mais étant enseignante, la prise de conscience, moi, elle m'est venue parce que j'ai eu la chance d'enseigner à Hong Kong et de transiter aussi par Singapour. Puis, il y a certains pays, certains systèmes éducatifs qui sont beaucoup plus avancés du fait de leur contexte. Et je me dis que les étudiants avec qui on travaille, avec qui on justement facilite du développement de compétences, c'est ces citoyens un peu du monde qui vont être sur le marché du travail au même titre que les Hongkongais, les gens de Singapour, les Finlandais, les Danois. Donc, la question, c'est, moi, en tant qu'enseignant, je me dis, j'en ai conscience, mais parce que je suis sortie ailleurs, puis il y a une façon aussi globale de voir les choses qui fait que j'ai conscience de ça. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait aussi, je dis pas qu'on donne les enseignants en tant que responsables, mais moi, en tant qu'enseignante, qui enseigne au Québec, des fois, tu sais, je me sens comme, mais moi, je suis partagée, on m'a appris quelque chose, et il y a différentes théories qui m'ont appris que j'enseignais bien. Je me base sur des théories fondées qui ont toujours fonctionné. Maintenant, on me dit, il faut que j'intègre dans ma manière d'enseigner différentes ressources numériques, mais qui me compliquent la vie. J'ai pas forcément appris à être un apprenant continu. J'ai appris à avoir mon diplôme et aller sur le marché du travail. Est-ce que c'est pas aussi déprimant un peu pour les enseignants de se dire, ben peut-être que c'est là où je veux aller, mais quand j'essaie de l'appliquer, j'y arrive pas. Ça me prend du temps, ça me complique la vie aussi dans ma vie personnelle, ça me demande de l'énergie. J'ai envie de vivre aussi moi. Donc, est-ce que c'est pas des décisions aussi qui devraient être prises d'un point de vue institutionnel? C'est dommage de le dire, mais à un moment, faut que ce soit imposé et que la remise en question vienne du haut. C'est clair que l'effet top-down, c'est pas nécessairement ce qu'il faut, mais il y a quelque chose à faire de ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses?
Je comprends ce que tu es en train de dire et puis t'as hyper raison dans ce que tu es en train d'amener. Mais d'après mon expérience avec les personnes qui adaptent les technologies ou adoptent les technologies, quand c'est imposé, c'est comme il y a tout de suite une réaction de défense, d'un non rapide. Et puis, je crois fortement que si la personne n'est pas prête, elle peut pas avancer ça. Ça va pas venir d'elle-même, ok? Donc, elle doit avoir cet accompagnement. Surtout comme je crois que c'est vraiment il y a un travail sérieux qui doit se faire sur l'accompagnement. Donc, quand on parle d'accompagner les enseignants, c'est pas juste, comment dirais-je, peut-être préparer des cours pour elles, mais vraiment passer à travers, comme je disais au début de notre rencontre, passer à travers la transition petit à petit. Il y a des personnes, on est tous différents, n'est-ce pas? Donc, il y a des personnes qui vont vraiment, à un moment donné, comme ça va, comme cliquer, puis ça va marcher. D'autres personnes, ça va prendre un peu plus de temps. Mais ne pas juste, parce que je vois avec les concepteurs pédagogiques qui travaillent avec les enseignants, ils les aident et puis parfois ils préparent leurs cours, etc.
Ouais.
Il faut vraiment passer de préparer le cours à l'autre, mais vraiment leur apprendre comment faire. Donc, travailler avec les enseignants pour que ces enseignants développent ces compétences-là, développent les stratégies qui sont intelligentes. Donc, travailler intelligemment pour pouvoir faire cette transition, cette transformation de leur cours. Parce que moi, je suis certaine qu'il n'y a aucun enseignant qui ne veut pas vraiment le bien de leurs
étudiants. Mais
oui,
mais c'est ça.
On leur dit que le monde est en train de changer, puis je suis 100% certaine que tous veulent absolument préparer leurs étudiants pour ce monde qui change, mais elle n'arrive pas parce que elle a peur. Elle a peur du changement. Elle a peur des technologies. Elle a peur du temps que ça va prendre. Parce que comme tu as dit, il y a la vie aussi, comme il y a la famille, il y a plein de responsabilités. Donc, il faut trouver des moyens pour préparer, développer des compétences et donner des stratégies à ces enseignantes-là pour qu'elles aient des enseignants pour qu'ils puissent retravailler leur enseignement petit à petit d'une façon à ce que ça va alléger leur travail en réalité. Parce que quand ils vont commencer à travailler avec les ressources, quand ils vont commencer à travailler avec où le poids n'est pas vraiment sur l'étudiant, mais c'est l'apprenant qui collabore, qui fait partie de l'expérience de l'apprentissage. Il y a vraiment, moi dans mes cours, sérieusement là, j'enseigne, ça prend du travail pour préparer, mais quand les personnes me disent, OK, mais comme tout le travail, mais je leur dis, mais mes étudiants, c'est eux qui font le travail. Moi, je suis là, mais je sens pas le poids. Oui, ça m'a pris du temps pour faire la transition. Quand j'enseigne, je crois que aussi le fait que j'enseignais les arts, c'est très libératif. Alors, les étudiants étaient fouillés et puis j'étais préparée. Mais quand j'ai commencé à enseigner à la maîtrise à Concordia, tu sais, t'as peur. Tu enseignes ton premier cours, ton deuxième cours, tu veux t'assurer que tes évaluations sont bonnes. Tu veux t'assurer que tout est correct, que tu es en train de donner tout à tes étudiants, que tu sais comme qu'ils sont en train de développer toute la connaissance, qu'il faut absolument qu'ils développent. Ouais. Alors tu fais cette approche qui est très traditionnelle pour on fill the bucket.
C'est du gavage.
Oui. Et puis tu deviens comme une maman qui veut s'assurer qu'ils ont. Mais au fur et à mesure que tu développes l'expertise dans l'enseignant, tu réalises que ça aide pas vraiment les étudiants. Si tu les files tout, ça les aide pas. Donc, ça m'a pris deux cours pour que je puisse retravailler mon approche pédagogique et puis de m'inspirer aussi de ce que je faisais dans les arts, etc. Mm-hmm. Donc, le travail, c'est pour préparer l'expérience. C'est là le gros du travail. Mais une fois que l'expérience est faite, elle est préparée, on va toujours évoluer, bien sûr. On va toujours revoir nos cours, on va toujours revoir l'expérience parce qu'on va toujours avoir des différents groupes d'apprenants dans nos classes. Mais le travail va être beaucoup plus plaisant parce qu'on est ensemble avec nos étudiants. On est en train de travailler avec les différentes technologies qui vont faciliter. Même quand on parle de l'intelligence artificielle maintenant, et puis on parle de la personnalisation des apprentissages. Là, dans les cours, dans nos classes, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir vraiment détecter, avoir plus de données concernant nos étudiants. Quand on parle dans les classes, et puis on veut absolument assurer l'équité, on veut absolument assurer qu'on est en train de vraiment donner l'inclusivité, etc. OK, mais c'est avec les technologies nous-mêmes, OK, avec je sais pas combien d'étudiants il y a dans les salles dans les écoles, une trentaine, peut-être, je sais pas, comme dans les
Ouais,
dans les
c'est salles. Ça dépend ouais de
On peut pas avoir toutes les données qu'on a besoin pour pas observer tout le monde, alors qu'avec la technologie, ça peut nous donner toutes ces informations là qui vont nous aider vraiment à personnaliser notre enseignement envers les différents étudiants. Donc, la technologie va venir nous assister. Elle va pas venir ajouter du travail, mais vraiment elle est là pour nous assister, pour nous faciliter la vie. Mais l'apprendre et puis l'intégrer, ça va prendre du temps. Mais une fois que c'est fait. Et puis là, après, le travail va être beaucoup moins lourd et beaucoup plus intéressant, beaucoup plus. Ça va vraiment pousser beaucoup plus loin. L'accompagnement doit se faire avec les enseignants, que ça soit les accompagnants avec les équipes technopédagogiques ou bien avec
j'ai même pas besoin de poser ma question, j'ai même pas besoin de poser ma question, ça y est, tu le dis, allez, vas-y.
Oui, donc ce que j'essaie de d'apporter ici, c'est que on doit travailler sur les différentes solutions. Donc avec ces équipes là, il y a vraiment, il y a des formations, mais aussi il peut y avoir des outils. Ils pourront pas avoir des job aids. Donc, on peut avoir vraiment différentes interventions auprès des enseignants que ces services technopédagogues peuvent préparer à ces différents enseignants qui peuvent par eux-mêmes ne pas attendre un rendez-vous avec la personne, mais vraiment avoir des ressources, vraiment avoir des expériences et puis créer une communauté entre ces différents enseignants qui peuvent échanger, avec la COVID, il y a plein de communautés de pratiques qui ont été et qui ont été créées au sein de différents
départements. Le terme à la mode, communauté de pratique.
Oui, exact. C'est ça. Donc, ça a été créé parce qu'il y avait un besoin d'échanger. On avait besoin de dire, OK, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton cours? Moi, je fais ça. OK, moi, j'utilise ça. Toi, comment tu as réussi à faire ça? Est-ce que ça marche? Quelle est la réaction de tes étudiants sur ça? Donc, cet échange-là, on a vu que durant la COVID, c'était hyper important. Ça nous aidait beaucoup à évoluer. Alors, pourquoi ne pas le maintenir pour faciliter encore une fois notre travail? Donc, il y a cet accompagnement qui n'est pas juste des rencontres, c'est pas juste des formations momentanées, c'est pas juste des formations de groupe, mais aussi, ça peut être différentes interventions qui peuvent être mises en place pour accompagner ces personnes-là à leur propre rythme. On veut absolument qu'elles passe à travers le non, ok, la résistance aux technologies a vraiment commencé à les utiliser, mais on veut qu'elles les utilisent parce qu'elles sont motivées pour les utiliser, parce qu'elles voient la valeur de les utiliser, qu'on n'est pas en train d'ajouter un stress. On veut pas des enseignantes qui sont anxieuses, qui sont stressées, qui viennent dans leur cours et puis, tu sais, comme c'est lourd pour elles ou pour eux. On veut vraiment des personnes qui voient la valeur dans ce qu'on est en train de proposer, mais on a besoin de leur donner du temps. Donc, la COVID a venu, elle a donné une mauvaise expérience à plusieurs. Donc là, on a un travail double à faire. On doit, comment dirais-je, corriger ce que la COVID a fait et plus pousser encore plus loin pour que puissent ces personnes-là adapter et puis adopter les différentes technologies.
C'est ça qui est passionnant et on va bientôt arriver à la fin de notre rencontre et je me dis, oh, j'aurais dû prévoir plus de temps parce qu'il y a tellement de choses que je voulais dire, notamment ce que tu as dit tout à l'heure, ça revenait un peu quand tu parlais de on peut collecter beaucoup plus de données parce que quand on est un enseignant, on a 30-35 étudiants là en amphi dans sa salle de cours, etc. On n'est pas là, on n'est pas omniprésent à savoir ce qu'ils font derrière leurs feuilles, quelles sont les difficultés de chacun. On a envie de faire au mieux et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que tu es persuadé qu'un enseignant veut toujours le bien pour son élève. Un enseignant, il veut que son étudiant réussisse. C'est ça, on est tous d'accord, il y a consensus sur ça. Mais la nouveauté apporte des frustrations parce qu'on ne connaît pas, on a peur et on diabolise un peu. C'est ce qui se passe pour les réseaux sociaux. Tout ce qu'on entend des réseaux sociaux dans notre domaine, c'est négatif. C'est pareil pour l'intelligence artificielle et puis la collecte des données. Dès qu'on dit collecte des données, c'est « Oh, tu veux connaître ma vie ?» C'est des barrières, en fait, des murs qui s'érigent parce que ça crée une frustration et une peur. C'est un travail qu'on doit faire, justement, de dédramatiser, de démystifier la collecte des données, l'intelligence artificielle. Et comme j'en parlais lors d'un échange avec une conseillère à la recherche du Cégep de Matane, vulgariser l'usage de l'intelligence artificielle, c'est important aujourd'hui et ça devrait commencer maintenant. On en parle beaucoup dans le domaine académique. La question que je voulais te poser, parce que ça, c'est des questions qui vont mener peut-être à une autre rencontre, mais c'est surtout, ce serait quoi, Nadia, le conseil que tu aurais si... Imaginons tout de suite là, tu as le pouvoir de changer des choses dans notre réseau. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un enseignant et aussi peut-être un coordinateur, un directeur de département qui essaie de trouver un moyen justement de travailler à cette pratique du changement. Pour te donner un exemple, je te disais que j'enseignais à Hong Kong, il y a déjà 10 ans, j'avais observé que chaque département avait un conseiller chargé de, on va dire, la question du changement. Ça m'avait fasciné. Je me disais, mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Et il aidait les gens sur différentes choses. Alors, nous, on l'appelle conseil pédagogique. On a même appelé conseil technopédagogique pour scinder les deux. Mais pour moi, un conseil pédagogique, on va en parler de plus en plus, ce sera pas nécessairement quelqu'un spécialisé en technopédagogie, mais ça fera partie de la compétence du conseiller pédagogique de pouvoir enseigner la pédagogie numérique, ou du moins, pas d'enseigner, je veux dire, c'est un lapsus, mais d'accompagner les enseignants à cette pratique un peu du changement. Ce serait quoi, toi, le conseil que tu pourrais donner?
Pour faire avancer les choses. Regarde, comme le changement n'est pas facile, j'ai assisté à des crises de larmes d'enseignants qui pouvaient plus même entendre parler de la technologie, tellement c'était dur pour elles. Je crois que là, présentement, on doit donner l'espace aux enseignants pour qu'elles reprennent leur souffle. Donc, si je parle avec les personnes qui sont responsables, il faut donner le souffle, mais en même temps, Vous avez repris votre souffle. Voici l'aide qui est présente pour vous, pour que vous puissiez réexplorer les choses. Là, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Alors, je veux juste prendre une petite.
C'est pas une question facile, je sais. Je te prends.
Non, c'est pas facile du tout. Parce que si tu me parlais avant, je t'aurais dit ah là 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 là, on va les vraiment les mettre dans les bains et puis ouais. On va les pousser. Mais là, j'ai fait vraiment un recul parce que j'ai vu qu'il y avait une souffrance. Ok. Mmh. Donc il faut prendre en considération parce que quand on parle de l'empathie envers nos étudiants, on doit aussi avoir l'empathie envers nos enseignants. On peut pas leur imposer des choses et puis on doit les accommoder et puis on doit comprendre leur situation et puis on doit vraiment les aider à performer. On doit les aider pour qu'ils puissent aider nos étudiants. Donc si on ne les aide pas, là, on est en train de mettre nos étudiants en péril. Donc, c'est vraiment les aider à voir encore une fois la valeur de la chose et puis expérimenter. Le truc, c'est que en technologie éducative, on parle beaucoup des petits succès. C'est comme quand tu fais une diète, ok? Tu commences ta diète, tu commences ton sport, etc. Si tu vois pas les petits j'ai perdu un petit peu de poids,
ouais,
tu vas manquer ta motivation. Alors ces petits succès, c'est ça ce qui va développer la motivation. On commence pas par la motivation, on commence par une détermination, on commence par ok, on va essayer de le faire, ok, mais on voit la valeur de ce qui, de pourquoi on doit utiliser les technologies, pourquoi on doit collaborer. Moi je parle vraiment de la collaboration avec la
collaboration
parce que la technologie ne va pas venir nous remplacer, nous on va pas pouvoir travailler sans la technologie. Donc c'est vraiment un travail en collaboration et puis savoir quelles sont les forces de la technologie, quelles sont mes forces. Puis ce qui est super intéressant, j'écoutais des webinaires hier et puis on parlait du fait que la présence de l'intelligence artificielle est en train de nous pousser à mieux comprendre l'importance de l'humain et puis vraiment la valeur de l'humain et puis les compétences de l'humain, que peu importe le développement de l'intelligence artificielle, elle va jamais pouvoir arriver à ces compétences-là. Donc vraiment aller voir ok, comment ces technologies-là vont pouvoir venir m'aider. Donc moi, si j'étais responsable, je dirais pas aux enseignants je veux absolument que tu utilises ça. Je vais commencer à leur montrer ok, comment ces technologies vont faciliter votre travail, comment ces technologies vont vous aider dans votre travail, comment elles vont vraiment pouvoir vous amener là où vous voulez aller et encore plus loin que là où vous voulez aller avec vos étudiants. Donc vraiment commencer à discuter les valeurs et puis comprendre la résistance. Donc comprendre, aller vraiment passer à travers tous les défis, toutes les vraiment écouter. Il faut vraiment écouter ces personnes-là pour pouvoir vraiment venir avec des solutions. Parce que si on va leur dire ah toi t'as peur, t'as pas à avoir peur, moi j'ai
vas-y.
Déjà avec ça, vas-y. Ça va pas aider.
Ça va pas aider. Ouais.
C'est vraiment aller comprendre la source de ta peur. Pourquoi t'as peur? T'as peur parce que t'as jamais utilisé ça? Est-ce que parce que tu l'as utilisé mais t'as eu une mauvaise expérience? Est-ce que parce que t'avais pas des ressources? Est-ce que parce que tu t'es senti seule? Est-ce que pas? Donc vraiment aller fouiller. Mais quand je dis fouiller, c'est pas envoyer un survey avec. Non. Parce que ça aide pas. Sérieusement.
On a besoin du rapport humain. Ouais, non, c'est plus possible de survey.
D'écouter tes enseignants, d'écouter pourquoi ils résistent, et puis vraiment prendre ça en considération, prendre ça très sérieusement, et puis travailler avec ton équipe d'accompagnement, l'équipe de conseillers pédagogiques, pour pouvoir trouver des solutions à tous. Il n'y a aucune raison de résistance qui est minime. Il faut vraiment s'attaquer à tout, et puis montrer à ces enseignants que on est en train de les écouter et puis on est en train de trouver des solutions pour les aider. Donc cet accompagnement, d'être entendu, je crois que ça c'est
super important.
C'est super important. Donc commencer, comme j'ai dit, à comprendre le pourquoi du nom, commencer à trouver des solutions pour réduire ce nom, et puis une fois qu'on a trouvé ces solutions là et puis il y a plus vraiment des raisons pour les résistances, mais il faut commencer à expérimenter et puis expérimenter avec des petites choses et puis avoir ces petits succès. Parce que dès que tu commences à avoir ces petits succès, tu te dis « Ok, là, j'ai eu une belle expérience. Ok, là, je vais peut-être essayer de pousser un peu plus loin. Et puis après, je vais pousser encore plus loin. Et encore, je vais… » Tu vois? Donc, vraiment passer à travers ces différentes transitions, c'est hyper important. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est être exposé tout le temps aux expériences des autres. Donc, même si… Et puis, on voit ça dans Winner et puis quand il parle des communautés de pratique. Il y a plusieurs niveaux. Il y a les personnes qui sont au centre, qui sont hyper actives, qui sont en train de faire tout le changement, etc. Et puis, ils sont en train de partager, etc. Et puis, il y a les lurkers, ou bien les personnes qui observent de loin, juste pour voir okay, qu'est-ce qui arrive dans ce groupe. De quoi ils parlent, etc. Mettre nos enseignants dans ce contexte-là où elles peuvent, mais observer de loin. Observer les expériences et réfléchir par elles-mêmes. Avoir ces moments de réflexion pour se dire, OK, est-ce que je vais tenter un peu une expérience, ou bien là maintenant, je suis à l'aise de rester un peu loin et puis juste observer et puis voir les expériences des autres et puis vraiment apprendre de ceci. Donc, donner cet espace-là, parce que apprendre socialement, c'est hyper important. Apprendre avec les autres, apprendre à travers les expériences des autres, et écouter les différentes solutions que les autres amènent, c'est hyper important. Donc, créer un espace safe. Je crois que ça, c'est le mot. Vraiment un sécuritaire pour ces personnes-là qui ont peur, qui résistent, de se dire, OK, on n'impose pas, mais on nous donne l'espace pour aller essayer doucement. T'imagines, alors, comme quelqu'un qui n'a jamais nagé, tu le jettes dans l'eau.
Ben oui, c'est ça.
Alors, c'est une belle image. C'est plein de métaphores à t'entendre.
Ouais, c'est une belle métaphore et j'adore. Et l'idée, c'est que vraiment, Nadia, je trouve que cette conversation est tellement riche et j'ai plein de lumières qui s'allument dans ma tête et je pense que cette conversation, elle va vraiment, vraiment, ne serait-ce qu'inspirer, informer des gens et peut-être mettre des petites puces à l'oreille. Je voulais te demander par rapport à tes recherches, tes écrits, c'est quoi, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut te lire, quels sont tes projets en fait pour cette année, pour permettre aussi aux auditeurs de peut-être te suivre de loin. Tu es sur les réseaux sociaux, tu as ton LinkedIn. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es, puis qu'est-ce que tu prévois de faire dans les mois à venir?
Oui, comme tu dis, je suis sur les médias, sur les réseaux sociaux parce que je vois la valeur de ceci. Oui. Parce que comme je t'avais dit, moi j'aime partager tout ce que je suis en train de faire pour avoir du feedback du grand public et puis vraiment échanger avec les autres. Donc je partage tout, que ce soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram. Je suis là maintenant, j'explore TikTok. Et puis je crois qu'on doit avoir une rencontre sur TikTok. Sur Twitter, bien sûr. Donc je suis là. Et puis, je n'utilise pas un fake name, c'est toujours Nadia Nafik.
Oui, c'est ça, t'as pas de... Oui.
Non, j'ai pas un nom d'artiste, j'ai vraiment comme... j'utilise ça, mais aussi, là où je travaille beaucoup, c'est vraiment le site web de la Cherclé. Donc là, sur le site web, il y a tous les projets sur lesquels je suis en train de travailler ou bien collaborer. Il y a aussi un blog où je partage non seulement mes écrits, mais aussi les écrits de mes étudiants. La COVID nous a appris beaucoup. Et puis, il y a plein qui va être pris pour après. Donc, on va continuer à utiliser ces approches-là et puis on va les développer et puis on va évoluer avec ces approches-là. Donc, on veut les prendre pour les utiliser pour la transformation numérique à travers laquelle on vit et puis elle évolue d'une façon hyper rapide.
Merci tellement, Nadia, pour cet échange vraiment riche.
Et... Merci à toi, Florence. Et puis, vraiment, c'était super excitant. Thank you.